Merci Seigneur Jésus. Tu es véritablement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es merveilleux. Il y a un rassasiement de joie dans ta présence. Seigneur, tu rends ton peuple heureux. Tu le libères. Ô Seigneur, nos cœurs t'aiment et t'adorent. C'est toi qu'il nous faut pour ce premier jour de l'année. Nous voulons commencer avec toi, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout ce qui commence sans toi ne pourra se terminer. Finira par l'échec, mais tout ce qui commence avec toi finira dans la bénédiction. Ô Seigneur, nous voulons commencer avec toi. Nous voulons que cette retraite nous rapproche de toi. Un pas de plus, Seigneur. Je veux faire un pas de plus avec toi, et un pas de plus aussi vers mon frère et ma sœur. Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci pour ce que tu as déjà fait. Ton esprit est à l'œuvre. Et tu vas encore agir. Pendant la prédication, Seigneur, tu es à l'œuvre, car tu envoies ta parole et tu guéris. Et maintenant, tu nous enseignes aussi, Seigneur, car tu as choisi de nous parler au travers de ta parole. Instruis-nous maintenant et donne-nous ce dont nous avons besoin pour commencer cette nouvelle année avec toi. Seigneur, merci parce que tu le fais. Nous comptons sur toi, je compte sur toi. Je suis incapable de faire quoi que ce soit, Seigneur, sans toi. Sans toi, je suis perdu, Seigneur. C'est pourquoi je compte sur ton onction, seul, pour enseigner, pour édifier, exhorter et consoler. Merci, Seigneur, pour ta présence que nous chérissons, que nous aimons, et que tout, Seigneur, pendant cette retraite, te glorifie. Seigneur, toi seul dois être glorifié, car tu ne donneras jamais ta gloire à un homme, ni à qui que ce soit. Un seul est digne, Jésus, car lui seul a souffert, a donné sa vie pour nous. Lui seul est digne. C'est pourquoi nos regards se tournent vers lui. Vers toi, Seigneur, car c'est de toi seul que vient la délivrance et la réponse à tous nos problèmes. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous louons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et le Seigneur, pendant cette retraite, il veut nous parler personnellement. Il connaît votre nom. Et je sais une chose, je sais qu'il vous aime. Amen. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas aimé par certains. Moi, je voudrais vous dire que je connais quelqu'un qui vous aime. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et nous voulons dire aussi que nous vous aimons au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, comment faut-il commencer l'année? Quel est le message que tu veux donner à tes enfants? Et pour moi-même aussi, quel est le fondement? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et cette pensée m'est venue. Le seul message qui demeure, qui libère, et qui nous place sur le rocher des siècles, c'est le message de la croix. Et j'aimerais vous prêcher sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, source de puissance et d'autorité. Nous ne pouvons jamais dépasser la croix. La croix est le remède à toutes nos faiblesses, à tous nos problèmes. Il y a dans la croix ce que tu désires ardemment dans ton cœur, ce que tu cherches ailleurs. C'est à la croix que tu le trouveras. La croix, source de puissance et d'autorité. Nous avons besoin de puissance dans ce monde aussi, n'est-ce pas? Il y a tant de puissances qui veulent nous renverser, tant de puissances qui s'opposent aussi à Dieu, qui s'opposent aux chrétiens. Mais la croix reste debout. Il y a un merveilleux cantique qui dit cela. La croix reste debout. Et ceux qui sont attachés à cette croix resteront debout. Amen. Alléluia. La croix, source de puissance et d'autorité. J'aimerais donc vous donner brièvement sept sources qui coulent de la croix. J'en ai dit sept. Je me suis dit au début, est-ce qu'il faut que j'en donne quatre, cinq? Ma liste commençait à se rallonger. J'ai pensé, on n'est qu'aujourd'hui et demain. C'est un petit week-end, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, c'est pas le moment d'en donner quatre ou cinq, il faut en donner sept. Sept sources. Oh, il y en a beaucoup plus. Mais j'aimerais vous donner les sept sources qui coulent de la croix. Sept sources de puissance pour nos besoins personnels, pour notre vie, pour notre ministère. La croix doit être le premier, la première chose en tout. La première chose pour commencer l'année. Mais la première réalité dans notre vie, dans notre ministère, dans notre foyer, la croix doit être la première des réalités, n'est-ce pas? On disait des méthodistes, un jour un prédicateur méthodiste rendait ce témoignage. Il disait, mais comment ça se fait que du temps du réveil de Wesley, il y avait, ces méthodistes avaient une telle puissance? Et ce prédicateur méthodiste contemporain disait, mais comment ça se fait? On est méthodistes, nous aussi. Et Wesley a fondé cela, mais il y avait une telle puissance. Et ils ont constaté une chose, que les premiers méthodistes prêchaient beaucoup sur la croix. Et voilà pourquoi ils ont expérimenté un réveil, une puissance qui est allée en profondeur et qui a secoué l'Angleterre et le monde de cette époque-là. Tandis que maintenant, ces mêmes personnes réalisent leurs faiblesses, ils essaient de faire beaucoup de choses, mais ils ont négligé la chose essentielle, la croix de Jésus. Chers amis, bien souvent, nous luttons, nous combattons, et nous nous disons pourquoi tant d'échecs. Et nous remarquons une chose, c'est que la croix de Jésus est négligée. On n'en comprend pas le sens, la signification. Bien sûr, qui peut épuiser les richesses qu'il y a dans la croix? Personne, moi le premier. Mais il y a quelques vérités fondamentales importantes que nous allons voir maintenant. Prenons comme texte de base Galates chapitre 6, un beau verset de l'apôtre Paul, quelques versets de l'apôtre. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre aurait pu se glorifier d'autre chose, n'est-ce pas vrai? C'était un intellectuel, c'était un universitaire. Il aurait pu se glorifier de sa sagesse et de son intelligence, comme beaucoup le font aujourd'hui. Il aurait pu se glorifier de son ministère. Il avait un ministère d'apôtre. Il avait un peu tous les ministères, l'apôtre Paul, vous êtes d'accord avec moi? Il aurait pu se glorifier de cela, comme beaucoup aujourd'hui se glorifient de leur ministère. Et à les voir et les entendre, on a l'impression qu'il n'y a que d'eux, il n'y a qu'eux. Ils se vantent de leur ministère. Les autres, il aurait pu se vanter aussi de ses dons spirituels. Il pouvait dire lui-même, faut-il que je vienne au milieu de vous avec une parole de connaissance, une parole de sagesse, avec une langue, avec une révélation, l'interprétation. Il avait la parole de sagesse, il avait le don des langues, il avait la prophétie, il avait l'interprétation, il avait les dons spirituels. Il aurait pu se glorifier de cela, n'est-ce pas vrai? Mais est-ce qu'il s'est glorifié de cela? Non. Pourtant, ces choses sont importantes. Mais non. Il y avait quelque chose de plus important. C'est-à-dire que ces choses-là importantes avaient leur source dans quelque chose de vital, dans quelque chose qui était fondamental dans sa vie. Car si ces choses n'avaient pas leur source dans la croix de Jésus, tout ce qu'il aurait fait, tout ce qu'il aurait dit, tous ses dons n'auraient pas porté et son travail n'aurait été que superficiel. Voilà pourquoi le travail de l'apôtre Paul a duré. Voilà pourquoi il a tenu au travers des temps, des circonstances. Parce qu'il était fondé sur la croix de Jésus. Il ne se glorifiait pas de son judaïsme ou des églises qu'il fondait, comme beaucoup se glorifient de leur église aujourd'hui. Combien disent, moi, je suis né dans telle église, je mourrai dans telle église. Ça m'a toujours frappé. Ils se glorifient de leur église. La première chose que les gens vous disent, lorsque vous lui demandez s'ils sont chrétiens, moi, je suis catholique ou je suis protestant. Comme pour dire, voilà mon sujet de gloire. Non, mes amis, vous savez qu'une chose, là-haut, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Il n'y aura que des enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus et régénérés par son esprit. Si tu te glorifies de ton église, tu n'as pas de place au ciel. Le ciel n'est pas un lieu pour glorifier telle église, jamais. Jamais. Et quand on a compris la croix, on a fini de se glorifier d'une organisation, d'une église ou d'un homme. C'est fini. Il n'y a qu'une personne qui compte, et c'est le Seigneur Jésus. Amen. Personne ne doit ravir la gloire qui revient à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y avait une telle puissance dans l'apôtre Paul. Voilà pourquoi la croix était une source de puissance dans son ministère. Parce qu'il ne donnait la gloire à rien d'autre. Non pas aux nombreuses églises qu'il avait fondées. Non pas à ses dons, ses ministres, ses talents, ses capacités. Il n'y avait rien d'autre. Pour moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que, pour commencer l'année, il nous faut réaliser cela. Car tous ici, vous vous glorifiez en quelque chose, on se glorifie en quelque chose ou en quelqu'un. Et devant Dieu, nous ne pouvons pas nous glorifier en 50 choses et en même temps glorifier Dieu, ça c'est impossible, ça n'existe pas. En qui vous vous glorifiez? Et si nous nous glorifions en Jésus, alors tout le reste n'a plus d'importance. Amen. Tout le reste ne vaut plus rien, car il n'y a que la croix de Jésus qui demeure. Et les hommes et les religions passeront, mais l'évangile de la croix de Jésus demeurera pour l'éternité. Amen. C'est le moment de dire Alléluia. Oh, Alléluia.
Quelles sont ces sept sources? Je vais vous les donner brièvement maintenant. La croix. Première source. La croix est une source de salut. La croix est une source de salut. Ce n'est que par la croix de Jésus que l'homme est sauvé. Écoutez, ceci est vital. C'est Spurgeon, le fameux, le prince des prédicateurs, qui disait « Quatre mots ont dirigé ma vie, ont conduit ma vie, et quatre mots aussi me dirigeront, me conduiront dans la mort. » Ces quatre mots sont ceux-ci. Jésus est mort pour moi. Cette pensée-là l'a dirigé toute sa vie. Écoutez-moi bien, j'insiste là-dessus. Christ est mort pour nos péchés. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, et même soi-disant des théologiens, qui disent que la croix de Jésus n'est pas la source de notre salut. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort comme un homme qui nous a montré l'exemple, un homme qui est venu pour se sacrifier pour les autres et nous donner un exemple d'amour pour les autres. Voyez-vous? Voilà, on nous dit, voilà pourquoi Jésus est mort. Mais il ne parle pas de Jésus qui est mort pour nos péchés. Ils disent, non, Jésus est venu donner un exemple de sacrifice pour les autres. Est-ce que vous pensez cela? Si vous pensez cela, alors vous n'avez pas compris la croix. Et vous n'êtes pas sauvé. Car il est question de votre salut. Ce sont des vérités capitales qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. La Bible dit, ne dit pas que Jésus est mort pour nous donner un exemple. La Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, nous dit ceci. Paul disait lui-même, je vous annonce l'évangile. L'évangile que je vous annonce, et qui est selon les Écritures, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Voilà pourquoi Christ est mort. Il est mort pour nos péchés. Et il y en a d'autres qui disent, voyez-vous, je vais insister un petit peu là-dessus parce que c'est le point vital sur lequel l'ennemi de nos âmes voudrait mettre le trouble et la confusion. Et d'autres diront, d'ailleurs dans l'épître aux Galates, c'est ainsi, ils vous diront, moi je crois, nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais la confusion est là, c'est que, mais il faut se faire circoncire. Autrement dit, oui, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il faut encore faire des œuvres religieuses pour être sauvé. Voyez-vous, là, on ajoute quelque chose au salut. Et on dit, mais voyez-vous, cet homme était bon, et parce qu'il était bon, parce qu'il a été gentil, eh bien, il sera sauvé. On dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais on ajoute quelque chose à la croix. On ajoute quelque chose à la croix. Et c'est là quelque chose de tragique. Nous ne pouvons rien ajouter à la croix. Si Christ est mort pour tes péchés, alors tu ne peux rien faire pour te sauver toi-même. Tu ne peux rien faire. Et si tu essayes par tes œuvres religieuses, si tu essayes par ta religion, par tes prières, par tes bonnes dispositions à plaire à Dieu, tu ne plairas jamais à Dieu. Et voilà pourquoi tu n'es pas délivré. Voilà pourquoi tu n'as pas l'assurance de ton salut. Car ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas l'assurance de leur salut? Parce qu'elles essayent de faire quelque chose pour être sauvées. Et comme on ne fait jamais assez bien, alors elles ne sont jamais certaines d'avoir fait les bonnes choses. Et c'est ainsi que, voyez-vous, continuellement, toute leur vie, ces personnes sont tourmentées. Ah, un jour ça va bien, on a fait une bonne action, alors on est heureux. Mais le lendemain, on a fait une mauvaise action et on ne sait plus où on en est. Mais la croix de Jésus, c'est quelque chose qui vient nous délivrer de la culpabilité de notre péché. La croix de Jésus a résolu ce problème définitivement. Amen. Je lisais cette histoire d'un... Ça se passait en Suisse, je ne sais pas en quelle année, mais c'est l'histoire d'une église. On était en train, un ouvrier était en train de refaire la façade de l'église. Et malheureusement, en refaisant cette façade, le voilà que il est tombé par terre. Mais heureusement pour lui, au moment où il tombait par terre, il y avait justement un berger avec des brebis qui passaient là-dessous. Et il est tombé sur un agneau. Et alors, vous devinez ce qui s'est passé ? L'agneau a été tué instantanément, mais lui a été sauvé. Et on a appelé cette église l'église de l'agneau. C'est l'église de l'agneau. Voilà, dans ce récit, l'explication de la croix de Jésus. Par la mort de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui est venu pour ôter nos péchés, par sa mort, nous avons la vie. Et nous-mêmes, nous ne pouvions rien faire pour être sauvés, absolument rien. Rien que la mort de Jésus nous sauve. Mais cette mort est suffisante pour nous sauver pleinement et nous délivrer de notre culpabilité. Amen. Et voilà pourquoi la croix est la seule source de salut. Toute personne qui met sa confiance dans autre chose que la croix ne saura jamais qu'elle est sauvée. Elle espérera toujours être sauvée. Mais mon ami, c'était là la révélation de l'apôtre. Il disait aux Galates, et si vous lisez cet épître aux Galates, il ne mâchait pas ses mots. À un moment donné, même l'apôtre Pierre a été repris par l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Pierre, il a commencé à faire des compromis avec l'évangile de la grâce. Un jour, il était avec des païens, et puis alors, des juifs sont arrivés. Et ces juifs-là, ils croyaient en l'évangile, mais ils croyaient encore en la circoncision pour être sauvés. Ces juifs disaient, oui, Jésus est mort pour nous sauver, mais il faut encore se faire circoncire pour être sauvés, sinon vous ne pouvez pas être sauvés. Et alors, Pierre nous montre cet épître, a eu une certaine crainte de ces juifs. Et quand il les a vus arriver, il s'est éloigné des païens à qui il avait prêché l'évangile de la grâce. Et par crainte des juifs, il est allé auprès d'eux, comme pour dire, oui, d'accord, on est sauvé par grâce, mais quand même, oui, on peut encore aussi plaire à Dieu par nos œuvres et par ce que nous pouvons faire. Mais quand Paul a vu cela, il est dit qu'il l'a repris. Paul a repris Pierre. Il a dit non, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'évangile de la grâce est un évangile qui libère l'homme de sa culpabilité. Nul homme ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, par les œuvres personnelles, mais l'homme sera justifié par la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà la vérité qui transforme un homme. Voilà la vérité qui libère l'homme de sa culpabilité. Voilà la source de ton salut. Peux-tu dire ce soir, Christ est mort pour mes péchés. Et s'il est mort pour mes péchés, alors je suis pardonné. Il a payé ma dette. Je suis libre. Je suis sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi le chrétien a une autorité. Voilà pourquoi le chrétien a une puissance. Parce qu'il sait que seule la croix le sauve. Peux-tu dire cela? En qui te glorifies-tu? Peux-tu dire ce soir, seul la mort de Jésus me sauve et me pardonne. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Si vous faites cela, Dieu vous pardonnera et vous ressentirez ce pardon dans votre cœur et vous deviendrez une nouvelle créature. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Voyons la deuxième source maintenant. La deuxième source de la croix est une source de consécration. Nous lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens une autre pensée très importante, 2 Corinthiens chapitre 5 versets 14 et 15. Regardez ce que l'apôtre dit encore concernant la croix. Il y a là une autre pensée importante. 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyez-vous, l'apôtre a compris autre chose maintenant. Il a compris que dans la croix de Jésus, dans le sacrifice parfait de Jésus qui nous sauve, il n'y a pas seulement le pardon de nos péchés, mais il y a aussi une source de consécration. Il dit ceci, mais comment, lui qui est mort pour nous, pouvons-nous encore, nous, vivre pour nous-mêmes? À celui qui a tant fait pour nous, à celui qui a tout payé, à celui qui s'est donné entièrement, qui a été rejeté pour nous, qui a été humilié pour nous, à celui qui a donné sa vie pour nous sauver, comment pouvons-nous rester indifférents? Nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes si nous comprenons le sacrifice de la croix. Et il dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyez-vous, dans la croix, il y a la source de notre consécration. Bien souvent, nous poussons et nous invitons les chrétiens à se consacrer, n'est-ce pas? Il y en a qui se consacrent tout le temps, mais il n'y a jamais rien qui tient. Il n'y a jamais rien qui tient. Je ne veux pas dire que, par moments, le Saint-Esprit nous pousse à nous consacrer, c'est bien. Mais écoutez-moi bien, mes chers amis. Il y a une consécration qui tiendra. Mais cette consécration provient de quoi? D'une révélation de la croix. Quand nous aurons vu et saisi combien Jésus nous a aimés, s'est donné pour nous, alors en retour, nous ne ferons qu'une chose. Nous nous donnerons à lui, non pas 10%, à 20%, à 50%, à 99%, mais nous nous donnerons à lui à 100%. Amen. Alléluia! C'est pourquoi nous avons besoin, et moi-même j'ai besoin, mes chers amis, vous avez besoin d'une nouvelle révélation de la croix. C'est là, voilà, c'est là que sera résolu nos problèmes de consécration. On se donne et on reprend sa vie. Je lisais l'histoire de ce fameux Morave, le fondateur des Moraves, vous savez qui c'est? C'est ce comte Zinzendorf. Vous savez comment il s'est consacré à Dieu? Un jour, en Allemagne, il était en train de visiter une galerie de peinture. Et là, il a aperçu un tableau qui relatait la crucifixion de Jésus. Et lorsqu'il était debout devant cette croix, voyant les souffrances de Jésus, tout à coup, il y a comme une pensée qui est venue dans son cœur. C'était comme si le Seigneur lui parlait et lui disait, « Mon enfant, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que fais-tu pour moi ? » Ces pensées-là ont pénétré son cœur comme une flèche. Il s'est courbé devant Dieu et il a dit, à partir de maintenant, ma vie ne m'appartient pas. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Et toi, que fais-tu pour moi ? Il s'est courbé, il s'est consacré à Dieu et voilà comment a commencé la vision missionnaire des Moraves. Et pendant des années, des dizaines et des dizaines d'années, les Moraves ont envoyé des missionnaires dans le monde entier. C'était des hommes qui étaient capables de faire tous les travaux, n'importe quoi. Lorsqu'ils étaient dans les bateaux pour aller prêcher l'évangile, ils étaient prêts à faire les travaux les plus humiliants. Ils étaient partout. Ils considéraient comme une grâce, comme une gloire, de pouvoir faire les travaux les plus humiliants, parce qu'il y avait une vision de la croix de Jésus. Alléluia! C'était le feu qui tenait allumé, qui restait allumé sur l'autel de leur cœur. Voilà ce que Jésus a fait pour moi et moi. Que je fais pour lui? Je ne peux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour lui et pour lui seul. Oh, mes amis, voilà ce dont nous avons besoin en ce premier jour de l'année. Une nouvelle révélation de la croix. Mes amis, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de vous forcer pour venir à Jésus, pour vous consacrer à Jésus. Au contraire, c'est nous qui allons vous retenir. On vous dira, arrête un petit peu, comment m'arrêter? Je ne peux plus m'arrêter, c'est pas possible. Sais-tu ce qu'il a fait pour moi? Je ne peux plus vivre pour moi-même. La croix, mes chers amis, est la source de consécration. Toute autre chose qui est à l'origine de notre consécration ne tiendra pas. N'est-ce pas vrai? Combien de personnes se consacrent et se déconsacrent? Ils ont consacré et puis 15 jours après, ils sont déconsacrés. Ils ont la couronne pendant 15 jours et la couronne, ils la perdent bien vite. Ils la perdent dans le bourbier du péché de ce monde. Ils n'ont pas peur d'abandonner leur maître pour les plaisirs passagers de ce monde. Et c'est des hauts et des bas continuellement. La réponse au haut et au bas dans ta vie spirituelle est de saisir cette révélation, de voir ce Sauveur qui s'est donné pour nous. Et notre seule réponse sera, Seigneur, maintenant me voici, toi tu as tout donné, maintenant je me donne tout entier à toi. Amen. Jésus, ou nous lui donnons tout, il ne veut rien du tout. Nos 10%, nos 20%, nos 50%, nos 99,99% ne l'intéressent pas. Il te dira, moi, c'est ce 0,001 qu'il me faut. C'est ça, c'est ce 0,0001. C'est ça qu'il me faut. Il y a un feu dans la croix. Jésus s'est donné entièrement à son maître, à son père. Lui-même s'est écrit, voici, je viens pour faire ta volonté. Et nul n'a pu l'arrêter. Nul n'a pu l'arrêter. Mes amis, nul ne vous arrêtera pendant cette année si vous avez cette vision de la croix. Et lorsque le mal se présente devant vous et que l'ennemi essaye de vous tenter, rappelez-vous la croix. Rappelez-vous ce qu'il a fait pour vous pardonner. Rappelez-vous les souffrances qu'il a dû endurer pour vous sauver, pour vous purifier, pour vous rendre pur. Rappelez-vous, rappelez-vous. Et vous aurez la haine du péché et vous n'aurez qu'une envie de fuir loin de cela et glorifier Dieu dans votre vie. Amen. Il considérait comme une grâce, comme une gloire de pouvoir faire les travaux les plus humiliants parce qu'il y avait une vision de la croix de Jésus. Alléluia! C'était le feu qui tenait allumé, qui restait allumé sur l'autel de leur cœur. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et moi, que je fais pour lui? Je ne peux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour lui et pour lui seul. Oh mes amis, voilà ce dont nous avons besoin en ce premier jour de l'année. Une nouvelle révélation de la croix. Mes amis, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de vous forcer pour venir à Jésus, pour vous consacrer à Jésus. Au contraire, c'est nous qui allons vous retenir. On vous dira, arrête un petit peu, comment m'arrêter? Je ne peux plus m'arrêter, c'est pas possible. Sais-tu ce qu'il a fait pour moi? Je ne peux plus vivre pour moi-même. La croix, mes chers amis, est la source de consécration. Toute autre chose qui est à l'origine de notre consécration ne tiendra pas. N'est-ce pas vrai? Combien de personnes se consacrent et se déconsacrent? Ils ont consacré et puis 15 jours après, ils sont déconsacrés. Ils ont la couronne pendant 15 jours et la couronne, ils la perdent bien vite. Ils la perdent dans le bourbier du péché de ce monde. Ils n'ont pas peur d'abandonner leur maître pour les plaisirs passagers de ce monde. Et c'est des hauts et des bas continuellement. La réponse au haut et au bas dans ta vie spirituelle est de saisir cette révélation, de voir ce Sauveur qui s'est donné pour nous. Et notre seule réponse sera, Seigneur, maintenant me voici, toi tu as tout donné, maintenant je me donne tout entier à toi. Amen. Jésus, où nous lui donnons tout, il ne veut rien du tout. Nos 10%, nos 20%, nos 50%, nos 99,99% ne l'intéressent pas. Et glorifiez Dieu dans votre vie. Amen. Nous ne pouvons voir la croix et ne pas nous consacrer. C'est pas possible. C'est impossible. Ça n'existe pas. Que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux pendant ce week-end.
et que vraiment un feu nouveau s'allume en nous. Amen. Gloire à Dieu. Une troisième source qui coule de la croix. Cette source-là, c'est une source d'unité. Il n'y a qu'à la croix que nous sommes véritablement un. Les hommes cherchent l'unité aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? L'unité dans le compromis. Certains disent, fermons la Bible et nous serons d'accord. On en est arrivé à ce point-là. Et c'est ainsi dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup d'endroits, on vous parle d'unité, mais il faut fermer la Bible. Fermer la Bible, on est d'accord. Mais ouvrez la Bible, on n'est plus d'accord. Ce n'est pas cela l'unité, mes amis. Là encore, que d'efforts pour l'unité, n'est-ce pas vrai? Que d'efforts. Des milliers de francs qui sont dépensés. Des millions sont dépensés, des millions, pour l'unité des chrétiens et des églises, des millions. Et mes chers amis, cela échoue toujours, car nous n'avons pas le bon fondement. Tout est sentimental, tout est humain, tout est fondé sur la sagesse. La sagesse, l'habileté de l'homme. Toi, si tu fais tel compromis, moi je ferai tel autre compromis. Si on fait un autre compromis, on s'entendra. Toi, t'en fais aussi un autre. Moi, j'en fais un dans ce domaine, toi, tu en fais un dans un autre. Et peut-être qu'on va pouvoir s'entendre comme cela.
Et mes amis, rien ne se passe, n'est-ce pas vrai?
On est d'accord quand on est ensemble. Le jour où on s'en va, il n'y a plus rien du tout. C'est terminé. Mais la croix, et encore la croix, est la source de notre unité. Galates chapitre 3, versets 27 et 28. Regardez ce que dit encore l'apôtre Paul. Galates 3, voici ce qu'il dit, verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » La seule unité est celle qui se fait en Christ. Et nous sommes en Christ par sa croix. Mes chers amis, lorsque nous venons à la croix, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le Seigneur et rien d'autre. Ce qui nous divise, ce n'est pas ce qui vient du Seigneur, c'est ce qui ne vient pas du Seigneur. C'est cela qui nous divise. Ce sont vos pensées, mes pensées. Ce sont les traditions humaines. C'est tout cela qui nous divise et qui diviseront les hommes. Mais tout ce qui vient du Seigneur nous unit. Tout ce qui est fondé sur la croix, car dans la croix, mes chers amis, il y a quelque chose que Dieu détruit, c'est l'orgueil de l'homme. À la croix, l'homme est brisé dans son orgueil. Le sage, où est-il? L'intelligent, où est-il? Dieu a détruit toutes ces choses par la prédication de la croix. Plus personne ne peut se glorifier à la croix du calvaire. On ne peut se glorifier que de Jésus et de Jésus seul. Amen. Mes amis, voilà la vision que nous devons avoir. Voilà la vision qui unit vraiment. Voilà celle qui nous tiendra unis pour le temps et pour l'éternité. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on parle d'unité autour d'un Christ sans croix. On prêche un Christ sans croix maintenant. C'est un Christ humain. Un Christ qui a fait des bonnes œuvres. Un Christ qui est quelqu'un qui avait des bonnes idées, une bonne philosophie. Mais ce n'est plus le Christ de la croix. C'est un Christ sans croix. Et un Christ sans croix n'est plus le vrai Christ. Amen. Alléluia. Une source d'unité à la croix. À la croix. Et rien d'autre, car à la croix, tout disparaît. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Nous sommes tous au même niveau, au pied de la croix. Il n'y a pas d'homme supérieur ou inférieur. Nous sommes tous un, oh gloire à Dieu. Amen. Ça détruit l'orgueil de l'homme, qui veut toujours être plus que quelqu'un d'autre. Mais à la croix, il n'y a plus rien de tout cela. Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant d'incompréhensions? Parce qu'il n'y a pas la croix de Jésus dans la vie des chrétiens. Chacun se glorifie encore de quelque chose. Alors qu'on devrait se glorifier que de Jésus et de sa croix. Amen. Voilà la vision que l'apôtre avait. Voilà la vision de l'unité qui nous tiendra et qui tiendra pour l'éternité. Amen. Alléluia, ne l'oubliez pas, c'est la croix qui nous a unis et c'est la croix qui nous tiendra unis et rien d'autre. Tout ce qui n'est pas de la croix ne nous gardera pas unis. Allons un peu plus loin. Une autre source, quatrième source. La croix est une source d'amour. Ah, lorsque nous saisissons là aussi la vision de la croix, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque tu regardes la croix, tu dois avoir une chose, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es aimé de Dieu. Ça, c'est le message central des Écritures. Douter de ce message-là, c'est douter de la véracité de Dieu, de l'intégrité de Dieu. C'est croire le plus grand mensonge. Si tu crois que Dieu ne t'aime pas, tu as cru le plus grand mensonge du diable. Tu l'as cru. Mais Dieu t'aime. Une source d'amour. Non seulement Dieu nous aime, mais nous sommes prêts aussi à aimer les autres, à aimer les autres. Voyez-vous, dans la croix, il y a un feu d'amour qui pénètre en nous et qui fait que nous sommes prêts à aimer les autres. Je lisais aussi ce témoignage d'un sous-officier. Vous savez comment il s'est converti, ce sous-officier ? Il était un jour dans une chambre. Et dans cette chambre se trouvait aussi un soldat qui était chrétien. Et tous les soirs, ce soldat chrétien lisait sa Bible et priait avant de s'endormir. Et alors ses camarades le savaient. Et lorsqu'ils étaient rentrés d'une journée de manœuvre comme cela, ils avaient leur brodequin tout sale, plein de boue. Et quand il était en train de lire sa Bible et de prier, chacun prenait ses brodequins et puis brum, sur la tête du soldat. Et lui ne bougeait pas. Et ce sous-officier a jeté aussi ses brodequins sales sur la tête de ce soldat. Mais le lendemain, quelque chose s'est passé. Vous savez ce que le sous-officier a trouvé au pied de son lit ? Il a trouvé ses brodequins qu'il avait jetés sur le chrétien. Non plus sales et dégoûtants, mais parfaitement propres et cirés. Et quand ce sous-officier a vu cela, cet amour qui transparaissait au travers de ce jeune homme, il a été brisé dans son cœur. Il n'a pu supporter cet amour qui venait de ce jeune homme. Et il s'est donné à Jésus. Et il a dit, c'est à cause de ces brodequins cirés que je suis maintenant chrétien, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mes amis, l'amour de Christ nous presse, disait l'apôtre Paul. Quel amour, il a pu aller partout. Personne ne pouvait l'arrêter, rejeter, mépriser, abandonner. Son cœur vibrait toujours d'amour. Et c'est ainsi qu'il a pu achever sa tâche. Parce que dans la croix, il y a une source d'amour inépuisable. Dans l'opprobre, dans la contradiction, cet amour est là. Mes amis, voulons-nous que Dieu nous utilise pendant cette année ? Voulons-nous avoir de la puissance et de l'autorité ? Elle est là dans la croix. Elle est là dans la croix. Tu sauras, à cause de Jésus, tu auras des difficultés, tu auras des souffrances. Mais Dieu veut que tu répondes par amour. Par amour, bénis ceux qui te maudissent. Ne rends pas le mal pour le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est cela la vision de la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent. À toute cette haine qui s'orientait, qui se dirigeait, qui l'opprimait, Jésus a répondu par quelque chose de plus puissant que la haine. C'était l'amour et le pardon. Amen. L'amour est plus fort que la haine. Le pardon est plus fort que le ressentiment. Amen. La lumière est plus forte que les ténèbres. Gloire à Dieu. Jésus est plus fort que le diable. Gloire au Seigneur. Veux-tu une source de puissance? Elle est dans la croix. 1 Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, tout à l'heure nous avons lu Jean 3 16, nous avons dit, mais maintenant 1 Jean 3 16 nous dit, car nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Gloire à Dieu. Voilà la vision de la croix. C'est une vision qui renouvelle notre amour, un amour qui se sacrifie pour les autres. Le sacrifice, c'est la respiration de l'amour. S'il n'y a plus de sacrifice dans notre amour, il n'y aura plus d'amour bientôt. Le sacrifice, c'est la respiration de l'amour. Et à la croix, en contemplant le sacrifice de Jésus, il y a là une force qui nous est communiquée pour aimer comme Jésus jusqu'à se sacrifier. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas prêt à aller jusque-là. Comment me sacrifier? C'est les autres qui doivent se sacrifier. Il y en a qui ont un ministère pour que les autres se sacrifient pour eux. N'avez-vous pas remarqué certaines personnes? Voilà, ils m'ont pas fait ceci, ils m'ont pas fait cela. Oh, ils auraient dû me faire ceci, ils auraient dû me faire cela. Ah oui, ils savent tout. C'est toujours les autres qui doivent faire quelque chose pour eux. Et voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Ah, si on m'avait dit bonjour, eh ben, ça irait un peu mieux. Si on était venu me visiter, ça irait un peu mieux. Hein? Ils sont pas gentils avec moi, ces gens, aujourd'hui. Pourtant, quand même, comment ça se fait? Et alors, ils sont là. Ce sont les autres qui doivent se sacrifier. Mais eux, jamais ça leur vient à l'idée de se sacrifier. Jamais, jamais. Ah, pour les autres, oui, ça vient tout de suite. Ils ont des révélations extraordinaires pour ça. Le Seigneur m'a montré que tu devais faire quelque chose pour moi. Mais jamais, jamais ils ont la révélation que Dieu devrait faire quelque chose pour eux, les autres. Jamais ça vient pas, ça. Ça, il n'y a pas de révélation pour ça. Pas de révélation, bloqué. Mes amis, si nous avons des problèmes, bien souvent, qui ne peuvent se résoudre, c'est parce que nous refusons cet esprit de sacrifice. Nous le voulons des autres, mais nous ne voulons pas le mettre en pratique. Et voilà pourquoi nous n'en sortons pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de puissance ni d'autorité. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas vrai? Regardons la croix. Méditons la croix de Jésus. Et voyons que là, lui, rien n'a pu l'arrêter. On le haïssait, mais il continuait d'aimer. On le rejetait, mais il n'a rejeté personne. Rien. C'était un amour qui se sacrifiait. Oh, si cet amour est en nous, mes amis, alors rien ne peut nous arrêter. Et pendant cette année-là, Dieu vous utilisera et vous rendra en bénédiction. Amen. Mais il faut la vision de la croix pour cela. La vision de la croix. Et alors, lorsque nous aurons la vision de la croix, nous ne parlerons même plus du sacrifice. Nous parlons de sacrifice parce que nous n'avons pas encore la vision de la croix. Mais quand nous avons la vision de la croix, nous ne parlons plus de sacrifice. Nous disons, Seigneur, mais c'est de tout mon cœur que je fais cela. Je n'ose même pas parler de faire un sacrifice. Je n'ose même pas dire que c'est un sacrifice, Seigneur. Cela voudrait dire que c'est à contre-cœur, n'est-ce pas vrai? Cela voudrait dire que c'est contraint, c'est forcé. Non, Seigneur, j'ai compris ta croix. Tu m'as aimé volontairement. Tu m'as aimé sans aucune contrainte de la part de ton Père ou des hommes. Tu m'as aimé par amour. Tu t'es donné pour moi par amour, parce que tu m'aimais. Alors, maintenant, Seigneur, je comprends cela aussi. Je ne veux plus parler de sacrifice. Si je t'aime, alors, il n'y a pas de sacrifice assez grand pour toi, puisque toi, tu as tout donné. Maintenant, ma joie est de me donner tout entier à toi, et pour toi, et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Cinquième source, la croix est une source de joie. Ah oui, c'est possible ça? Eh oui. Hébreux chapitre 12, verset 2, il y a là un verset formidable concernant Jésus. Vous savez pourquoi Jésus a tenu le coup, justement? Pourquoi il a pu supporter cette croix? Et ici, au chapitre 12 et verset 2, il y a la réponse. Il est dit que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez voir ici. Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Voyez-vous, la croix est une source de joie. Nous ne devons pas nous arrêter aux souffrances que nous pouvons avoir, mais aux résultats qui découleront de tout ce que nous ferons pour le Seigneur. Jésus, lorsqu'il mourait sur la croix, il pensait à tous ceux qui allaient se donner à lui, à la multitude, aux millions de millions qui allaient se convertir à cause de son sacrifice. Il voyait cela, et c'est pourquoi la souffrance lui devenait supportable. À cause de cette joie-là, mes amis, la vision de la croix est importante. Ne regardons pas aux choses passagères. Sur le moment, aujourd'hui, nous pouvons pleurer, nous pouvons avoir des difficultés. Mais levez votre tête. Levez votre tête. Ne pensez pas que toute votre vie sera ainsi. Levez votre tête. Il y aura un fruit. Il y a une couronne qui vous attend. Il y a la bénédiction qui vous attend. De votre obéissance, de votre consécration, des fruits en dépendront. Et Dieu vous bénira. Et lorsque vous verrez ces fruits un jour, vous direz, mais Seigneur, Seigneur, mais ça valait la peine de passer par ce chemin-là. Mais Seigneur, je regrette d'avoir bronché de temps en temps. Je regrette parce que si je n'avais pas bronché, il y aurait eu plus de fruits encore. Oh Seigneur, je regrette, je regrette. Mes amis, nous aurons une éternité entière pour jouir de la présence de Dieu. Nous pouvons souffrir un peu sur cette terre, mais nous aurons l'éternité pour nous réjouir ensemble. Amen. Il n'y aura plus de souffrance là-haut. Il viendra sécher nos larmes. Il y a un peu de souffrance à cause de Jésus. Supportons-les. Mais quel fruit, quelle couronne, quelle gloire! L'apôtre Paul disait, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si notre homme intérieur, extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Nous ne regardons pas aux choses passagères, mais nous regardons aux choses éternelles, aux choses qui demeurent éternellement. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait continuer, rien ne l'arrêtait. Ne vous laissez pas arrêter par les choses visibles. Êtes-vous accepté? Êtes-vous rejeté? Cela n'a pas d'importance. Soyez fidèles. Continuez votre course. Et une joie éternelle vous couronnera un jour. Amen. Gloire à Dieu. Voilà une sixième source maintenant. La source de la croix. C'est la sixième source et la source de la persécution. Ah, celle-là, on ne l'aime pas beaucoup. Et pourtant, l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance. Parce que lorsque vous obéissez à Dieu et à sa parole, mes amis, écoutez-moi bien, vous serez rejetés par les hommes. Vous serez rejetés par vos meilleurs amis, votre parenté, vous rejeteront. Vous ne serez pas acceptés, vous serez persécutés. On vous taxera de fou. On vous dira que vous avez perdu la tête, c'est fini. Mais c'est cela, la croix. C'est une source de persécution. Ne pensez pas que tout ira bien. Si vous voulez suivre le Seigneur jusqu'au bout, on vous persécutera, on se moquera de vous, on dira des mensonges sur vous, on vous calomniera. Mais combien sont prêts à supporter cela? Combien, combien? Voilà pourquoi beaucoup de gens font des dépressions aujourd'hui. Ils ne supportent pas. Comment? Tu as dit ça de moi? Tu as dit ce mal de moi? Alors c'est fini, la rancune vient, l'amertume vient, et on rumine ça pendant des mois, des années. Et c'est la haine, c'est le meurtre. On est là, on revit comme un lion dans une cage. Ah, si je pouvais, avec ma patte, le griffer et le détruire. Et voilà pourquoi, en voulant détruire les autres, nous nous détruisons nous-mêmes. La croix, c'est tout à fait un autre esprit. C'est Dieu qui nous a dit, mais mon enfant, si tu veux me suivre, si tu veux m'obéir, si tu es prêt à aller jusqu'au bout avec moi, tu seras persécuté. C'est normal. Mais moi, un jour, je te consolerai. Et dans la persécution, je me tiendrai près de toi. Si les hommes t'abandonnent, moi, je ne t'abandonne pas. Je serai près de toi. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Et dans le texte grec, vous savez ce qu'il est dit ici? Quand il est dit, je ne t'abandonnerai point. Non, 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 je ne t'abandonnerai point. Non, jamais, jamais, je ne te délaisserai. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Jamais, jamais, jamais il ne te délaissera. Mais la croix est une source de persécution. Vous serez persécutés. Et dans la persécution, vous devez bénir. Si vous ne bénissez pas, vous allez perdre l'onction. Vous allez perdre votre joie. Vous allez perdre tout ce que Dieu veut vous donner. Les vrais chrétiens, ce sont ceux qui sont prêts à souffrir pour leur maître. Non pas ces chrétiens à l'eau de rose. Qui aime le Seigneur quand tout va bien, ou quand Dieu les bénit, ou les guérit, et il n'y a plus personne après. Le vrai chrétien, selon la parole de Dieu, C'est un homme qui était prêt à donner sa vie. Voilà pourquoi beaucoup de nos chrétiens, de nos aînés, ont péri comme martyrs, n'est-ce pas vrai? Mes amis, la croix est une source de persécution. Il ne faut pas nous en étonner. Bénissez, bénissez. Nous sommes appelés à cela. Bénissez, ne maudissez jamais. Alléluia. Et septièmement, pour terminer, la croix est une source de victoire. Alléluia. Amen. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà pourquoi les premiers chrétiens ont vaincu. Ils l'ont vaincu qui? Dans le texte, c'est le diable. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Voyez-vous? Pourquoi les premiers chrétiens ont vaincu le diable? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Autrement dit, c'était des chrétiens qui étaient prêts à mourir pour Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre disait, Christ est ma vie et la mort est un gain. Et vous savez, quand on est prêt à mourir pour le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le diable ne peut plus mettre de crainte sur vous. La crainte de la mort a disparu. Bien souvent, nos problèmes proviennent de quoi? On a peur de mourir. On a peur de mourir. On essaye de sauver sa vie. Nous sommes à l'opposé de la parole de Jésus. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Mais nous faisons tout pour la sauver, notre vie. Et parce que nous faisons tout pour la sauver, nous la perdons. Mais regardez, quelqu'un qui est prêt à mourir pour Jésus et à rester fidèle, c'est quelqu'un que le diable ne pourra jamais arrêter. Amen. Car est-ce que le diable peut arrêter quelqu'un qui est prêt à donner sa vie au Seigneur? Jamais, c'est fini. Là, le diable n'a plus de puissance, c'est fini. C'est quelqu'un qui est libéré du joug du diable. C'est comme si le chrétien disait, mais tu veux me faire peur. On me disait, attention, tu vas mourir, attention, si tu fais ça, tu vas mourir. Mais le chrétien dit, mais gloire à Dieu, alléluia, mais je suis prêt à mourir. On racontait d'un chrétien, c'est en Afrique ou je ne sais où. Alors les païens sont venus le voir et lui ont dit, alors toi, tu dois abandonner Jésus et ta foi, hein. Sinon, on te coupe la tête, c'est fini pour toi. C'est fini! Abandonne ta foi! Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, sinon, si tu n'abandonnes pas ta foi, on te coupe la tête. Alors lui a dit, mais gloire à Dieu! Oh, je me réjouis déjà de voir ma tête rouler par terre et de dire alléluia. L'autre, ils ont dit, mais quoi? Ça chauffe un petit peu trop par ici dedans. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je me réjouis de voir ma tête rouler par terre et de dire alléluia, parce que je serai auprès de mon Père. Amen. Les autres ont dit, ah bon, t'es très joué? Ah bon, si t'es très joué de mourir, eh ben, ah ben, on te fait pas mourir. Et ils sont partis, confondus. Voyez-vous, vos ennemis sont confondus. On glorifie Dieu dans la mort et on glorifie Dieu dans la vie. Amen. Dites-moi, qui peut arrêter un chrétien comme cela? Qui peut l'arrêter? Qui? Personne. Moi, je ne peux pas vous arrêter. Vos ennemis ne peuvent pas vous arrêter. Vos amis ne peuvent pas vous arrêter. Votre parenté ne peut pas vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter. Le diable ne peut pas vous arrêter. Je crois que c'est un bon message pour commencer l'année. Vous ne trouvez pas? Mes chers amis, et lorsque bien souvent nous sommes prêts à donner notre vie, et Dieu nous dit, bon ben ça va, puisque tu es prêt à donner ta vie, eh bien tu la garderas encore un petit peu. Tu la garderas, parce que je ne prends pas plaisir à prendre ta vie. Ce que je veux faire surtout, c'est que tu sois prêt à donner ta vie, c'est tout. Et bien souvent, lorsque nous sommes prêts à donner notre vie, Dieu nous la conserve. Et c'est ainsi que, étant prêt à faire tout, et rien ne nous arrêtant, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Amen. Mais lorsque nous ne sommes pas prêts à donner notre vie, il n'y a pas de victoire possible. La moindre difficulté nous arrête. La moindre opposition, la moindre calomnie, la moindre persécution, la moindre incompréhension, on nous arrête, il n'y a plus rien. Et nous sommes incapables de faire ce que Dieu nous demande. Mes amis, celui qui a l'esprit de la croix, c'est celui qui a un esprit tel en lui qu'il accomplira la volonté de Dieu dans sa vie. Amen. Et personne ne vous arrêtera. Si vous voulez accomplir toute la volonté de Dieu dans votre vie, si vous voulez accomplir le ministère que Dieu vous a donné, il n'y a qu'un esprit, c'est par l'esprit de la croix. C'est l'esprit, c'est ceux qui ont l'esprit de la croix qui vont jusqu'au bout. Amen. Ceux qui n'ont pas l'esprit de la croix ne vont pas jusqu'au bout. Ne vont pas jusqu'au bout. Non seulement ils ne vont pas jusqu'au bout, mais ils essayent d'arrêter les autres aussi. Ils essayent d'arrêter les autres. Ah, oh, n'exagère pas. Oh, pense à toi, pense à toi, pense à toi. Mais c'est là justement qu'il y a quelque chose d'autre. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, je ne pense plus à moi, je pense à Jésus, à sa gloire, à lui seul. Amen. Moi je ne suis rien, je ne pense pas à moi. Qu'on dise du bien, qu'on dise du mal, je ne suis rien. Il y a quelqu'un qui est tout, c'est Jésus. Et je ne veux jamais jamais abandonner Jésus. Je ne veux jamais, jamais le renier. Je veux être fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Vous faites ce que vous voulez de moi. Je suis prêt à vivre et à mourir pour Jésus. Un chrétien comme cela, mes amis, c'est un chrétien victorieux. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'une révélation de la croix. Que Dieu nous la donne, mes amis. Et rien ne pourra nous arrêter. Rien. Nous serons portés. La croix porte ce qui la porte. Oh, alléluia. Nous serons transportés par Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, allons boire souvent à ces sept sources qui coulent de la croix. Abreuvons-nous souvent à ces sept sources. Alléluia. À la source, je répète. On va résumer tout ça. Première source, la source du salut. La source de la consécration, de l'unité, de l'amour, de la joie, de la persécution et de la victoire. Buvons à l'entrée à la coupe du salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui qui a commencé en toi une œuvre l'achèvera pour sa gloire. Ne t'arrête point, ne te décourage point. Dieu t'aime. L'esprit de la croix, c'est l'esprit invincible. C'est l'esprit des vainqueurs. C'est l'esprit qui a fait que Jésus a continué son ministère jusqu'au bout. C'est l'esprit qui est glorifié dans le ciel. C'est l'esprit qui te tiendra, qui te maintiendra au pied de la croix. Et c'est l'esprit qui te rendra vainqueur. C'est l'esprit qui fait fuir le diable. Alléluia. Ah, tu penses me faire peur, hein, Satan? Tu penses me faire peur? Attention, hein? Si tu fais pas ça, eh ben, quelqu'un va te marcher sur le doigt de pied, hein? Je vais te marcher sur le pied. On va se moquer de toi, attention. Mais gloire à Dieu. Mais tu sais pas, Satan, que je me réjouis de tout cela. Pour mon maître, comment tu te réjouis de tout ça? Alléluia. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même couper en rondelles. Gloire à Dieu. Chaque morceau criera Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Ah oui? C'est David Wilkerson qui a dit ça aussi. Vous vous souvenez, David Wilkerson, dans son livre, je ne sais pas si c'était Nicky Cruz qui disait cela, mais il lui a dit, écoute-moi, même si tu me coupes en rondelles, chaque morceau de mon corps dira Jésus t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Alléluia. Comment pouvez-vous arrêter quelqu'un comme cela? Personne. Il est invincible, c'est l'esprit de la croix. Pour moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, la croix porte ce qui la porte. La croix nous transporte, et nous transportera au travers des difficultés, au travers des combats, et un jour, la foi, la croix nous transportera dans ce ciel de gloire. Alléluia. Où nous serons pour toujours consolés là-bas. Ici-bas, l'épreuve, la difficulté, c'est vrai. Mais la joie sera là. Et éternellement, nous serons couronnés. Cela vaut la peine. Mes amis, bon courage. Dieu est avec vous. Amen. Que nous puissions nous glorifier seulement et seulement de la croix de Jésus. C'est l'esprit invincible. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de victoire. Que son nom seul soit béni. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la croix. Seigneur, nous pouvons parler de ces choses. Je peux parler de ces choses. Mais toi, tu as souffert pour nos péchés. Tu étais comme un homme défiguré. Tu as été rejeté. Tu as été humilié. Tu étais l'homme de douleur sur cette croix. Parce que tu m'aimais. Chaque cellule de ton être me disait: mais mon enfant, c'est pour toi que je suis mort. Il fallait que je meure à cause de ton péché. Ton péché ne peut entrer dans le ciel parce que tu ne pouvais te pardonner toi-même, te libérer de la main du diable. Il fallait que je meure. Il fallait qu'un innocent meure pour des coupables. Il fallait qu'un juste meure pour des injustes. Il fallait que je paye ta dette, car tu avais une dette que tu ne pouvais payer. Tu ne pouvais te sauver toi-même. Ni ta religion, ni tes bonnes œuvres, ni tes prières ne peuvent te sauver. Seul Jésus te sauve. Christ est mort pour tes péchés. Oh, réjouis-toi maintenant. Il est mort. Crois-le et donne-toi à lui. Maintenant, donne-toi à Jésus. Puisqu'il est mort pour toi, il veut te sauver. Il veut te pardonner. Il t'aime. Il veut te donner de commencer l'année pardonné de ton péché. Il veut te libérer. Il a payé la dette, ne reste plus sous ce sentiment de culpabilité. Il t'aime. Viens à lui tel que tu es. Viens, la croix libère.